Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, joueurs, sérieux, badins ou mauvais joueurs, vous êtes acceptés aussi, compétiteurs ou coopérateurs, bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde curieuse, bonne pioche. Aujourd'hui dans cette onde curieuse du jeudi dédié à la création, on va voir du côté de ceux qui créent justement des mondes pour que vous-même puissiez déployer votre propre imaginaire, ou simplement vous marrer un bon coup, des mondes ou des imaginaires avec des règles, éventuellement des personnages, des scénarios ou des débuts de scénarios, des mondes pour rigoler, ne plus penser ou refaire précisément le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à ceux qui créent des jeux, principalement des jeux de société. Que se passe-t-il dans leur tête? On leur posera les questions. On en parlera donc avec nos invités Denis Sauvage et Julien Busson. Bonjour.
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 Vous êtes tous les deux créateurs, éditeurs et traducteurs maintenant dans la maison d'édition que vous avez créée, Chakos ou Chaco. Je sais pas comment on prononce.
Normalement c'est Chaco, mais tout le monde dit Chakos.
Oui, on dit Chakos parce que on expliquera peut-être d'où vient ce mot Chaco. Et puis Cédric Anonier, bonjour.
Et bonjour.
Créateur artisanal de jeux, la plupart en poterie, c'est ça?
Voilà.
En céramique. Donc on va parler de tout ça, mais ça évidemment c'est après les infos. On s'engage, on prend position, et ce n'est pas qu'une question de stratégie de jeu de guerre. C'est le cas de l'association Paille-Olive, qui propose régulièrement des conférences, des randonnées commentées, etc. On en fait le relais ici dans l'onde curieuse. Mais cet asso interpelle aussi les citoyens sur des problématiques liées à la protection de l'écosystème. Et ils sont mobilisés en ce moment par l'application d'une loi d'exception qui veut mettre en place à grande échelle des sources d'énergie intermittentes, c'est-à-dire de l'éolien, du photovoltaïque notamment. Donc il y a pas mal de projets qui sont en cours. Et aujourd'hui, ils vous proposent de donner votre avis sur un projet de parc photovoltaïque au sol de près de 30 hectares sur le site du Bourbouillet, du côté de Saint-Alban-Auriol. L'enjeu est bien là, faire passer comme impérative la nécessité de mettre en place cette source d'énergie avant la protection de la nature, parce qu'on est sur de la création de parcs photovoltaïques au sol. Il y a d'ailleurs contradiction avec l'un des objectifs de zéro artificialisation nette des sols. Quoi en penser? C'est à vous de voir. Les infos sont sur le site de la mairie de Saint-Alban-Auriol pour voir exactement quel est ce projet. Donc je vous invite à aller sur le site de la mairie. Et puis vous avez aussi les arguments de l'association Paille-Olive sur le site de l'association dont je vous donne l'adresse www.de-paille-olive.org, et vous trouverez toutes les infos pour vous faire votre avis, puisque vous avez à le donner, votre avis, avant samedi, c'est-à-dire avant le 23 décembre, sur un registre en mairie de Saint-Alban-Auriol. Autre manière de s'engager sur ces questions de protection de la nature, faire un service civique à la FRAPNA. Bon, ça, évidemment, ça concerne les moins de 25 ans ou les moins de 30 ans. La FRAPNA, qu'est-ce que c'est? C'est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, qui est devenue en 2019 France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, et qui est une association, comme son nom l'indique, de protection de la nature, et puis qui fait pas mal d'actions de sensibilisation. Et elle a obtenu l'agrément pour recevoir des volontaires en service civique, et elle peut en accueillir trois à partir de février. Alors sur quel profil? Vous avez toutes les infos sur le site de la FRAPNA, mais en gros il y a deux profils, soit pour animer l'enquête participative Participa Sylve, qui permet de retrouver les vieilles forêts d'Ardèche, ou alors pour animer les ateliers du Hérisson. Donc toutes les infos sur leur site internet, le site de la FRAPNA, enfin FNE maintenant, -aura.org, ou sur le site servicecivique.gouv. Autre type d'action d'engagement, comme chaque samedi, je le répète, un rassemblement est organisé pour dire stop à ce qui se passe à Gaza, stop au massacre à Gaza et en Cisjordanie. Donc c'est à 11h, c'est sur l'Agora à Aubenas. Donc n'hésitez pas à venir à ce rassemblement. Alors de samedi, il y aura peut-être il y aura deux événements au même moment à partir de 11h. Donc ce rassemblement concernant Gaza et la Cisjordanie, et puis un repas solidaire qui sera offert donc aux plus démunis. Et c'est une initiative qui est lancée par Beretta, qu'on avait reçue ici même et qui avait lancé un CD avec plein de contributions d'artistes justement au profit des plus démunis. Et bien là, il continue, et là, ce sera donc un repas proposé donc avec sa femme Nadège et des amis. Il a créé tout ça, de la soupe de légumes, des cuisses de poulet, des bûches de Noël seront proposées. Et puis en plus, il y aura des vêtements chauds et des jouets pour les enfants. Et ce repas est rendu possible également parce que le traiteur Les Gourmandises de Nénette propose mettre à disposition à la fois des bûches de Noël et à la fois un peu de matos. Donc belle initiative qu'on souligne encore une fois de Beretta. Ce sera samedi à 11h sur le Champ de Mars, enfin sur l'Agora d'Aubenas. On peut aussi s'inspirer de ceux qui luttent et qui s'engagent. C'est le cas demain, vendredi, à Tueil, salle de la Vesprade, avec la projection de l'abbé Pierre, une vie de combat. C'est à 20h et donc on revient sur le parcours de Henri Grouès, qui a été résistant, député, et puis bien sûr, comme on le connaît, défenseur des sans-abri, avec son inoubliable appel de l'hiver 54. Donc c'est un film de Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne notamment, Emmanuel Berco ou encore Michel Vuillermoz. Et ce sera donc demain à 20h, salle Vesprade. C'est la dernière séance de l'année, donc à Tueil, grâce à la Maison de l'Image. Et puis enfin, on peut aussi lutter et s'engager en maintenant nos imaginaires éveillés et fertiles. Donc, dernière petite info agenda, c'est demain après-midi entre 15h et 18h à la librairie du Château à Aubenas. Une rencontre et dédicace proposée avec les ouvrages de Malvina Malige, alias Hélène Ménadier-Morel. Elle vient de sortir le tome 2 de Thérèse, la force de vaincre. Ce tome 2 qui est intitulé « Elle mangea des raisins verts ». Dans ce deuxième roman, Thérèse Matisse est devenue femme. Elle expérimente les choses de la vie, où elle trouve quelques réponses à ses questionnements d'enfant et d'adolescente. Elle va connaître de grandes espérances et de grandes illusions, des joies fulgurantes et des chagrins ravageurs. Je sens que mes invités sont interpellés, donc vous pouvez aller rencontrer l'autrice demain de 15h à 18h à la librairie du Château à Aubenas. Voilà, on va continuer un petit peu dans l'imaginaire made in Ardèche.
Ont entendu le coucou chanter. Ils se sont dit les uns aux autres pour qui le coucou a chanté. Et le plus jeune a dit par ma foi, je crois qu'il l'a chanté pour moi. Chers amis, pour n'avoir point d'erreur, n'en faut aller chez un procureur, chez un avocat de la ville qui nous dira la vérité, qui nous dira dans sa grande science pour qui le coucou a chanté. Parapapa, papapa, papapa, parapapa, parapapa, papapa.
demande à chacun 10 écus. Le procureur, la main ouverte, les 30 écus à empoigner. Allez-vous-en, dit-il, mes grosses bêtes, sera pour moi qu'il a chanté. De chagrin, puisque nos femmes sont si sages, ayons la joie dedans le cœur. Qui aurait cru qu'un oiseau si sauvage ait chanté pour un procureur?
Mazurka des Lourdeaux de Labo Bicouz, le nouveau projet de Agnès Clausel et Camille Guillemet, avec Sylvain Audemars aussi, qui est bidouilleur sonneur. C'est dans la playlist de Fréquence 7, et c'est le choix de l'un de nos invités, Cédric Anonnier.
Oui, tout à fait.
Merci Cédric, c'est du plaisir made in Ardèche, comme vous en fait, vous créez du plaisir made in Ardèche. On en parle, donc c'est... On parle de jeux de société ou de jeux de plateau, alors vous allez me dire ce que vous préférez, enfin, s'il y a question ou pas. Moi je dis jeu de plateau, c'est peut-être un petit peu plus large, ça. Non,
c'est un jeu de société. C'est moins large, mais je crois que tous les trois ici, on est sur du jeu de plateau finalement.
Jeux de plateau, donc comment on crée ces jeux de plateau ou de société? On se penche sur le processus créatif, donc avec nos invités, je rappelle, Denis Sauvage et Julien Busson. Vous êtes créateur, éditeur et traducteur dans la maison Chaco. Oui, parce que Chacos, on dit Chacos maintenant, Chacos, mais en fait Chacos, ça vient du couvre-chef, c'est ça, des militaires
voilà.
Napoléoniens,
voilà.
À partir de 1806, année justement forte pour vous, année où tout a commencé, dites-nous.
Oui, on ne s'est pas vraiment commencé avec Julien avant un petit peu, puisqu'on a beaucoup, beaucoup joué. Nous, on est des passionnés de jeux d'histoire. Et on s'est rencontrés par hasard, puisque sur un forum de jeux de société, justement, ou de jeux de plateau, comme on dit. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde en Ardèche qui avait ce genre de passion, on a pris contact. Et puis, depuis, on a joué pendant une bonne dizaine d'années, je crois. Donc.
Depuis 2006.
Ouais, 2006, ouais. Et au bout d'un moment, après avoir beaucoup joué, on s'est dit, tiens, si on faisait le jeu qu'on a envie de faire. Voilà, donc on en a parlé, et puis à deux, on a essayé d'élaborer donc Napoléon 1806, qui a été la première pierre de l'édifice de Chaco. Voilà.
Mmh. Et aujourd'hui, on doit être à une dizaine de jeux. Mmh. On a publié aussi un jeu de rôle, des livres-jeux. Donc voilà, la petite aventure, c'est bien développé. Mais au départ, c'est la passion, je pense, qui nous a réunis. Et l'envie de se faire plaisir qui nous mène encore aujourd'hui et qu'on espère qu'on va garder encore longtemps. Et donc qui nous a fait faire le premier jeu et puis les suivants. Parce que ça a plu aux gens aussi. Donc c'est très valorisant et ça donne envie de continuer, quoi.
Pour vous aussi, donc Cédric Anonnier, notre deuxième invité, qui crée donc des jeux proches de l'artisanat d'art en petite quantité, notamment en céramique. Pour vous aussi, Cédric, ou pour toi aussi, Cédric, c'est le fait de jouer d'abord qui t'a donné envie de créer les jeux avec lesquels tu aurais envie de jouer.
Ouais, c'est la base. Hein. On joue et on a envie de. On a du coup un panel d'idées qui se stocke, et puis on essaye de faire mieux ou différemment, ou on a des influences de tel type de jeu, etc. On a des moteurs, on appelle ça des moteurs ou des mécaniques, on prend des petits bouts ici, des petits bouts là, et puis ça cogite, et ça sort, et des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Si c'est pas bien, ça retourne dans le néant, et puis si c'est bien, ça fait son petit bonhomme de chemin, jusqu'à peut-être une maison d'édition. Moi je suis en micro-auto-édition, je vais à mon petit rythme, puisque je fais des jeux, comme tu disais, en céramique, donc c'est des temps de production longs, fastidieux, et puis qui font des jeux cher à la sortie, puisqu'on est sur d'artisanat d'art. Mmh. Voilà, donc je ne suis pas du tout sur une optique de produire beaucoup de jeux pour vendre beaucoup, mais plus sur des choses très, très minutieuses. Je peins mes tuiles, c'est-à-dire mes jetons de jeu, on va dire, à la main, avec des pochoirs. Je nettoie chaque pièce. Donc c'est des heures de travail pour chaque jeu. Voilà un petit peu comment je fonctionne. Et mes moteurs fonctionnent. Donc c'est pour ça que je les fabrique. S'ils ne fonctionnent pas, je ne fabrique pas.
À l'origine, donc on entend, il y a le plaisir de jouer, mais le déclenchement d'un jeu, pourquoi ce type de jeu ? Parce que justement, il n'existe pas, parce que vous aimeriez qu'il existe, mais c'est quoi ? C'est des nouvelles mécaniques de jeu ? Vous dites, ah mais ça, ce serait rigolo de jouer avec ces types de règles de jeu ou de mécaniques de jeu ? Ou est-ce que c'est des univers ? Vous avez envie de créer un jeu pour vous, qui êtes justement spécialisé dans le jeu historique plutôt, est-ce que c'est des univers ? Est-ce que vous dites, ah, mais on n'a aucun jeu sur, je ne sais pas, ce qui s'est passé en Vendée en 1793 ou 1794, ou qu'est-ce qui est
L'idée au départ, c'est que le jeu d'histoire, c'était quand même une niche hein, qui était très peu développée en France et surtout aux États-Unis, et avec un matériel qui n'est pas du tout les standards, c'est pas du tout très attrayant en fait visuellement. Donc avec Julien, on pensait que la stratégie, c'était quelque chose qui était important dans le jeu de société et qui n'était pas assez développé. Et on s'est dit, nous, si on avait envie de faire quelque chose qui nous rappelle nos sensations, la première fois qu'on a joué en tant qu'enfant, à des souvenirs, à des jeux comme ça qui nous ont marqués. Alors c'est différent pour plein de personnes, mais on s'est dit c'est quand même dommage que ce type de jeu va disparaître parce qu'il a pas l'attrait qu'ont d'autres jeux qui sont disponibles. Donc nous ça a été notre point de départ avec Julien, enfin surtout le mien, et on a voulu faire un jeu qui soit en même temps exigeant au niveau du plaisir d'y jouer, en même temps quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre, en mettant ça entre guillemets. Accessible, ça veut dire que on peut y jouer assez rapidement en ayant, comme on en parlait tout à l'heure, des règles qui soient accessibles. Et puis ensuite, on a voulu faire quelque chose qui soit beau, hein, donc qui soit attrayant visuellement pour les gens. Donc c'était un petit peu la trilogie, donc on est parti de là. Tu me couperas si je me trompe, mais moi c'était un petit peu mon projet de départ, permettre à plein de gens qui connaissent pas la stratégie dans les jeux de pouvoir s'y pencher.
Ouais, je pense que il y a vraiment une notion où on a voulu partager quelque chose avec d'autres personnes. C'est-à-dire que nous, on avait effectivement un attrait pour le jeu de stratégie, le jeu à thématique historique. On a vu des gens qui s'attardaient, qui ont joué à Cannes sur de grandes cartes étalées, qui se ressemblent un peu à des cartes d'état-major, et puis qui étaient intéressés par ça, parce que je pense qu'on est dans un pays qui a une riche histoire, donc il y a énormément de choses à faire pour la promouvoir et pour la mettre en avant aussi, donc c'est ça qui est intéressant, mais qui on trouvait pas forcément effectivement dans le commerce des jeux qui puissent être accessible pour tout le monde et le plus grand nombre. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été très important pour nous, de faire en sorte que les jeux, on puisse les jouer rapidement, même en étant à partir de 10 ans, on peut jouer à nos jeux, même si c'est des jeux de stratégie, même un peu avant si on est habitué à jouer aux jeux, et avec des durées de jeu assez limitées en 1 et 2 heures. Mais il y avait vraiment cette notion, comme disait Denis, déjà une passion parce que nous, ça nous plaisait, et d'envie de partager ça.
Envie de partager. Je rebondis, j'avais préparé une petite intro, j'ai pas eu le temps de la lire, mais assez intéressante pour recadrer aussi les choses. Vous parliez aussi d'aspect esthétique, quelque chose qui soit très assez, enfin voilà, séduisant, et j'imagine, Cédric, que c'est une partie importante aussi, le côté esthétique. Et dans les petites recherches que j'avais faites pour préparer l'émission, je me suis rendu compte que en France, on est d'abord le leader européen de créateurs et de production de jeux, Hein, on est et on produit, donc il y a 30 millions de boîtes de jeux qui ont été vendues par des boîtes françaises, par des maisons d'édition françaises. Donc c'est, on, nous sommes les éditeurs, enfin les leaders du marché européen. Et puis surtout, il y a depuis 5 ans, alors depuis aussi enfin, une forte accélération pendant le Covid, hein, et à l'issue du Covid, il y a plus de 3500 nouveaux jeux de société qui sortent chaque année, dont 1000 en France. 3500 dans le monde, et dont 1000 en France. Donc il y a... Et avec cette petite touche particulière, la French Touch, hein, on en parlait en musique, mais on peut en parler, je pense, dans les jeux, qui font que les jeux en France sont assez recherchés. Il y a une forme de, d'identité ou de sensibilité qui est recherchée, et qui tient notamment à la manière d'allier mécanique du jeu et esthétique. Et le côté vraiment un beau jeu, c'est quelque chose d'assez important dans l'univers du jeu français.
Oui, moi effectivement, à l'origine, je dessine. Donc, je me suis dit tiens, je vais dessiner mes propres jeux. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai redessiné un jeu classique de cartes pour pouvoir jouer au Toc. Le Toc, c'est une sorte de petit chevaux avec des cartes. Un jeu québécois ou vendéen, ils se disputent un peu la paternité. Donc, j'ai redessiné ce Toc-là dans un univers elfique. Donc, chaque carte a des entrelacs, etc. Et puis, j'ai modifié le moteur de jeu, parce qu'il y a des choses qui étaient trop lentes.
Quand tu dis moteur de jeu ?
La mécanique. Hein, voilà. J'ai rajouté quelques cartes. J'ai profité du fait que je devais redessiner le jeu. Je me suis dit, tiens, je vais redessiner le jeu de cartes. Du coup, j'ai rajouté des cartes pour fluidifier le jeu, en gros. Et ensuite, à force de créer, maintenant, je suis plus sur des mécaniques, une idée mathématique qui va me trotter dans la tête. Et tout de suite, je vais avoir un imaginaire visuel dessus.
Donc maintenant, c'est d'abord la mécanique.
C'est les deux, c'est compliqué. Il y a un jeu que j'ai fait qui s'appelle Space Poker qui marche vraiment très bien. À chaque fois que je fais jouer à ce jeu, il fonctionne vraiment très bien. À l'origine, c'est une mécanique de cartes et de trois brins qui s'entrelacent pour créer un chemin de brins. Et à côté de ça, des cartes pour faire des combinaisons, un jeu de combinaisons, on va dire, de poker classique. Et donc l'idée, c'est de à la fois jouer sur réussir à bien entrelacer ses brins pour arriver à faire quelque chose qui fonctionne et à avoir une bonne combinaison. Et ça, à l'origine, c'est cette mécanique-là. J'ai trois brins qui s'entrelacent. En combien de cartes je peux avoir toutes les possibilités? Et ça, c'est une nuit d'insomnie. J'ai ce truc-là qui vient, ça tourne. Mais tiens, s'il y a exactement le même nombre de cartes, de combinaisons, est-ce que ça match? Le matin au café, j'écris ça, je prends une heure ou deux pour l'écrire, je teste, et bam, ça fonctionne.
C'est ça, parce que dans le processus créatif, j'imagine que chaque étape est testée. En fait, il faut vraiment... dites-moi, comment se met en marche ce processus? On teste, on fait tester par d'autres. Qu'est-ce qui se passe?
Au départ, en fait... Moi, je crois qu'il y a quand même, on s'inspire beaucoup du fait qu'on a beaucoup joué. Donc, c'est vrai que peut-être que dans les jeux, il y a toujours des mécaniques qu'on va retrouver, la pose d'ouvriers, les échanges de cartes. Enfin, bref, on va s'inspirer. Je pense qu'on va prendre. Bon, j'aimerais bien avoir tout inventé, mais c'est malheureusement pas le cas. Et on va juste avoir une petite touche personnelle qui fait que c'est celle qu'on va apporter à cette dynamique-là. Et ensuite, lorsqu'on a on s'est fixé nos priorités, on va piocher à gauche, à droite, deux, trois mécaniques et on va assembler le tout pour avoir le projet que l'on souhaite. Et après, il y a une étape, moi que j'ai trouvé primordiale, que je connaissais pas au départ après avoir créé le jeu, c'est que quand on crée son jeu, on est dedans. Et quand on est dedans, on n'a peut-être pas toujours le recul nécessaire pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça plaît. Donc là, c'est là qu'il y a une étape, et ça j'ai confié ça à Julien, qui s'appelle le développement, et c'est important d'avoir un développeur, c'est quelqu'un qui va te dire, Denis, bon là vraiment ça c'est pas bon, faut que tu le refasses quoi. Donc c'est à ce moment-là, c'est un petit moment délicat, c'est-à-dire que t'as pas vraiment envie de le refaire, mais tu vas le refaire parce qu'il te demande, il pense que c'est important, parce que lui il a un regard qui va être moins, comment dire, il y a de l'affect quand même quand on crée quelque chose. Donc quand on crée de quelque chose, il y a de l'affect, et c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit en dehors de ça, qui permette de recadrer. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est vrai que les premiers jeux, enfin même maintenant, à chaque fois, avec Julien, et puis après avec les tests qu'on fait sur les salons, ça nous permet d'épurer, de voir ce qui va pas, et on modifie pas mal les choses pour arriver au projet final.
Ouais, ce qui va pas, c'est assez compliqué. Y a pas mal de choses. Effectivement, on parlait tout à l'heure hors micro de les règles. Comment on arrive à trouver les règles justes qui ne soient pas trop compliquées pour qu'elles puissent être jouées, pratiquées par le plus grand nombre. Mais c'est peut-être pas non plus votre souci. Ça dépend des jeux que vous créez. Donc Vous pensez tout de suite au public pour lequel le jeu va être, à qui le jeu va s'adresser. C'est d'abord ça, parce que du coup, ça va impliquer aussi quel type de règles je mets en place.
Nous tout de suite, on voulait vraiment que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc, on essaye de faire en sorte que nos règles soient synthétiques, compréhensibles, accessibles. Qui n'est pas forcément de répétition et autres. On a mis en place une méthodologie pour présenter les choses. Donc, d'abord, on présente ça, après, on passe par là, après, les mécaniques, définition de termes et autres. Voilà, donc, on a quelque chose qui commence à se dérouler maintenant et qu'on a acquis, entre guillemets, avec l'apprentissage. Après, quel que soit le public, parce qu'on scinde le public du jeu de société, entre guillemets, en débutant, initié, expert, on va dire ça, en trois parties comme ça. Mais qu'on aille vers un débutant, vers un initié, un expert, si la règle elle est mal écrite, elle n'est pas compréhensible, de toute façon, la personne ne comprendra pas. Donc là, c'est quelque chose qui est très fastidieux, qui n'est pas vraiment très passionnant. Comme disait Denis, il y a un aspect vraiment, effectivement, passion. Quand on crée un jeu, il y a un aspect affect et autres et compagnie. Et à un moment, on va rentrer dans une phase où toute cette passion, tout cet affect, il faut qu'on la fasse rentrer dans un cadre. Quoi qu'il en soit, de toute manière, il faut un moment que le jeu, l'idée qu'on a, elle soit cadrée. Et les règles, mine de rien, ça permet de cadrer ça et de mettre ça en place. Et puis des fois, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qu'on voulait faire qu'on peut pas. Et il faut faire aussi beaucoup tester, faire relire à des gens pour que les gens reviennent, disent est-ce que c'est bon ou pas. Mais c'est pas le plus passionnant. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment pas le plus passionnant.
Et pour l'âge? Justement, est-ce que quelquefois vous êtes vous êtes un peu trompé, vous dites ouais, là c'est bon, à partir de 12 ans on peut y jouer, puis au final en faisant tester on se rend compte que non.
En fait, je crois que Denis et Julien seront d'accord, il n'y a pas vraiment de notion d'âge. On a un petit de 6 ans qui va pouvoir jouer mieux qu'un gamin de 14 ans, on l'a vu. Je pense que vous avez fait des salons aussi, donc on a laissé tomber le côté âge. Mais j'ai une petite anecdote pour Ocre, le jeu en céramique que j'ai créé sur la grotte Chauvet. Donc j'ai le bestiaire de la grotte Chauvet, c'est des tuiles hexagonales, c'est un jeu de pose, c'est un jeu où il faut poser sa bonne tuile au bon moment pour gagner des points, en gros. Et je voulais un jeu très simple, très intuitif, on va dire, ouvrez les gros guillemets, pour touristes, donc très familial. J'ai pas réussi, c'était un échec. Y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai écrit mes règles le plus simplement possible, le plus lisiblement clair, on va dire. Et puis je me suis rendu compte que pour pallier à ça, il suffisait que j'ai un paravent, donc quelque chose qui va cacher vos propres jetons. Et là, vous avez les autorisations, les interdictions. Donc du coup, j'étais un peu déçu de pas réussir ce miracle de faire un jeu ultra simple, parce que je crois qu'on cherche tous un peu ça, un truc bim, ça fonctionne tout de suite, c'est clair, c'est intuitif, ça c'est génial quand on trouve ça. Et finalement, j'ai un jeu plus riche. Et en faisant l'aller-retour entre le jeu et les rappels de règles, l'aide de jeu, on va appeler ça, on a comme ça des petites astuces, les auteurs. Le truc, c'est de pas, ce dont on doit se méfier, c'est de faire un rajout de règles pansement, c'est-à-dire quelque chose, ça fonctionne pas bien, je vais créer une règle pour que ça fonctionne mieux. C'est le plus difficile, c'est simplify, 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 disait Thoreau, il faut toujours chercher à simplifier. Et sur Ocre, du coup, mon jeu en céramique, j'ai fait suffisamment de tests pour voir qui fonctionne, on va dire.
Ça prend combien de temps pour créer un jeu? Je pense que ça prend... Enfin, ça dépend des jeux, mais j'avais lu que pour vous, en tout cas, le premier, Napoléon, ça a duré quoi? 2 ans?
On a mis 2-3 ans, je pense, hein, à peu près, hein, mais du début à la fin, je ne saurais plus le dire exactement, mais ça a pris pas mal de temps, vraiment 2-3 ans. Après, il y a des habitudes, en fait. Ensuite, on prend des habitudes, il y a des fonctionnements, mais le premier, c'est vrai que ça a été compliqué de voir, parce qu'en fait, il n'y a pas de manuel pour expliquer comment on crée un jeu ou comment on le développe.
Quoique, j'ai vu sur Internet, justement, en préparant cette émission, que de plus en plus, il y a des tutos. Comment créer un jeu, ou en tout cas, c'est plutôt les bonnes questions à se poser, etc. Puisque vous êtes, enfin, pour créer 1000 jeux en France par an, il faut être quand même. Vous commencez à être un certain nombre, justement, à se pencher sur la question.
Ouais, juste pour compléter, en fait, on peut passer des années et des années à travailler sur un jeu parce qu'on va se dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas ou autre. Donc, le plus compliqué, je pense qu'à un moment, c'est de dire stop. Et de se dire là c'est bon, on va y aller, et puis bon, des fois on peut traîner, j'ai un jeu en maturation depuis trop longtemps, Denis me le rappelle souvent parce que des fois on se pose trop de questions et puis on continue, on remet, alors qu'à un moment il faut arriver à dire stop, maintenant on y va, quoi.
Et du coup avec la pratique, c'est vrai que maintenant, un des derniers jeux que j'ai créé, qui est un jeu de conflit médiéval à trois joueurs, en quelques heures c'était plié. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée de faire bouger un écu dans un hexagone, lui rajouter à cet écu des soldats à côté, et après le moteur s'est mis en place tout de suite, et en quelques heures c'était fait. Après j'ai eu un petit peu de test, chercher les écueils, chercher ce qui fonctionne pas. J'ai pas trouvé d'écueil. Du coup, on va dire, voilà, en quelques heures, ce jeu-là, il était créé. Mais c'est parce que j'ai une pratique, j'ai une cinquantaine de prototypes écrits derrière moi, de tests. Ça fait des années que je teste.
Et puis après, c'est peut-être un peu comme l'intuition, quoi. Ouais. À force de créer, à force d'imaginer, etc., certaines choses viennent plus vite, presque.
Et je voulais rebondir sur le fait qu'il y a même aujourd'hui des festivals d'auteurs. Vous n'avez qu'une protozone, c'est une protozone géante, c'est-à-dire un endroit où les auteurs vont venir faire tester leurs jeux. Et vous avez, tous les jeux sont à tester. C'est assez marrant.
Justement, en parlant d'auteurs, est-ce que vos jeux, quelquefois, vous ont complètement échappé ? C'est-à-dire comme un livre qui échappe à son auteur, comme un film où un spectateur va trouver tout un univers, va se poser des questions que l'auteur lui-même n'avait même pas imaginées. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vos jeux vous échappent complètement et que les joueurs en fassent complètement autre chose, ou alors se posent des questions ou aillent dans des imaginaires que vous n'aviez pas du tout prévus?
Oui, ça arrivait plusieurs fois lors de salons. Moi, ce que j'aime, c'est faire des. Moi, j'ai joué en tant que petit, donc j'aime beaucoup de plaisir à voir des petits jouer à des jeux d'histoire sans avoir la connotation militaire et à la stratégie. Et c'est vrai que quand j'ai vu des parties qui sont lancées où j'explique, on a l'habitude d'expliquer les règles, donc on les explique plein de fois, on est rodé. Et c'est assez rigolo de voir ensuite quand les plus jeunes s'emparent du. Les plus jeunes, et souvent avec les parents, s'emparent du jeu et vont aller. Pas du tout dans le respect des règles qui étaient au départ, mais ça, en fait, je m'en fiche un peu, parce que en fait c'est le plaisir de voir des gens jouer à son jeu, c'est vraiment très agréable.
Est-ce que vous-même vous continuez de jouer au jeu que vous avez fabriqué, que vous avez créé? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Moi, je fais toujours le parallèle avec... Enfin, je me dis, un réalisateur ne va probablement pas regarder ses films. Peut-être pas, je ne sais pas. Un écrivain ne va peut-être pas lire ses livres. Est-ce qu'un créateur de jeux continue, une fois que les jeux sont sur le marché, est-ce qu'il est fini? Est-ce que vous jouez à vos propres jeux?
Moi, j'adore.
Ouais.
Je me débrouille toujours pour perdre.
vous avez un jeu favori parmi les vôtres?
Toujours le premier, Napoléon 1806, parce que c'est quand même un point de départ, et puis je pense que c'est le plus abouti.
De toute façon, on joue régulièrement en salon, parce qu'on fait pas mal de salons, donc on fait jouer les gens à nos jeux, mais en plus, bon, moi j'ai mes enfants qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, et donc on joue assez régulièrement, et ça peut arriver qu'on ressorte un de nos jeux, parce que on est quand même assez fiers de ce qu'on a fait, et puis si on l'a publié et mis sur le marché, c'est qu'on pensait que c'était un bon jeu et qu'on a pris plaisir à y jouer.
Cédric.
Oui, ben comme Julien, effectivement, en salon, on se retrouve à jouer à nos jeux. Et c'est vrai que le Toc & Fic, c'est le jeu qu'on sort avec ma femme et mes deux enfants, parce qu'il plaît à tout le monde. Du coup, c'est oui, on joue à celui-là beaucoup.
On parlait de l'importance aussi tout à l'heure de l'univers du côté esthétique. Comment vous travaillez donc, Cédric, tu disais que tu es illustrateur à la base, mais pour vous, est-ce que vous faites appel à certains graphistes, à des illustrateurs? Est-ce que c'est compliqué justement de trouver des personnes extérieures pour mettre en image votre propre imaginaire?
Alors là, on est parti de rien par rapport à ça. Et en fait, moi, je suis allé chercher des gens qui m'avaient contacté. Et puis, on a fait le pari avec une ou deux personnes qui avaient jamais fait de jeu, etc. Donc on est vraiment parti d'une équipe, pas de bras cassés, je pense pas, mais de débutants. Et c'est vrai que les personnes avec qui on a travaillé, bah, elles se sont étoffées aussi dans ce cadre-là, parce qu'il y a des critères importants d'infographie donc lorsqu'on fait le jeu, que moi je maîtrise pas du tout. Et c'est vrai que la patte de Nicolas Trey, qui a commencé avec nous sur Napoléon et qui travaille à la plume, moi ça m'intéressait et il s'est vraiment fondu dans le projet et depuis il fait maintenant même d'autres jeux, donc c'était une belle aventure pour lui et puis pour nous. Mais les gens, c'est vrai qu'on est allé les chercher parce que on connaissait pas trop, et nous on est attaché avec Julien, avec des gens avec qui on s'entend bien, donc on a lancé pas mal de gens qui débutaient comme
Lisa aussi,
voilà. Donc non, c'est vraiment c'est intéressant.
Non, et puis surtout, on n'était pas capable en fait de mettre de faire tout ce qui était le travaux, que ça soit les illustrations, l'infographie. Bon, Denis est un peu plus artiste que moi. Moi, je suis pas du tout. Mais je pense que c'est complètement différent avec Cédric. Donc, on a dû faire appel effectivement à des prestataires extérieurs qui font de l'illustration ou de l'infographie. Et puis après, c'est du. Ouais, on le sent ou on sent pas. Bon, on a eu besoin d'aide extérieure, nous, pour faire que nos jeux soient commercialisables.
Vous avez, là, le temps court. Vous êtes lancé il y a peu de temps dans le jeu de rôle avec Beyond the Wall. J'ai lu une intrigue qui n'est pas complètement ficelée, qui n'est pas écrite. Julien.
Voilà, donc là on est, donc nous à la base on faisait du jeu d'histoire, mais on est avant tout des passionnés. Moi j'ai une grosse histoire avec le jeu de rôle et c'est quelque chose que j'adore pour l'aspect imaginaire, création, parce qu'en fait on va inventer tout le temps des histoires, donc on va tout le temps créer et utiliser son imaginaire pour animer des parties de jeu de rôle. Et Beyond the Wall, oui, c'est un jeu alors qui est spécifique, par contre c'est pas nous qui l'avons créé, c'est une traduction, mais vraiment la spécificité de ce jeu c'est qu'on part entre guillemets de zéro, on va lancer sur des tables qui vont nous définir des intrigues, et là il va falloir construire tout ça et utiliser toutes ces intrigues et puis ces petites pistes qu'on va nous donner. C'est aussi une approche qui est très collaborative, parce que donc on a un jeu de rôle, c'est un maître de jeu des joueurs, voilà, je fais très rapidement, mais tout le monde va participer à la création de ce monde et à l'invention de ce monde en étant un peu guidé. Et moi j'en suis tombé amoureux, donc bon, j'ai voulu lui faire plaisir. Denis, il a dit, vas-y. C'est comme ça qu'on fonctionne. De toute façon, on essaie de se faire plaisir. Mmh. Et donc, c'est bien. Et puis, bon, là, on est en train de créer aussi des choses avec de la communauté. On a un aspect communautaire que j'anime et autres. Donc, c'est très sympa. Ouais.
Avec de la communauté?
Donc, les communautés, en fait, on est sur les réseaux sociaux, hein, de toute façon, comme tout le monde. Et puis, ben, on a des gens qui nous aiment beaucoup et qui nous suivent. Et on essaye, pour le Beyond the Wall, on est en train de créer une aventure de manière collaborative. C'est-à-dire qu'on est en train, avec tous les gens qui participent à notre communauté, à créer une intrigue, un scénario, avec plusieurs options qui pourraient être utilisées avec le jeu de rôle. Ce jeu de rôle, voilà.
C'est vraiment fascinant, et justement, moi, j'avais une question, mais vous répondez un petit peu sur le côté démiurgique. Je me dis, mais en créant des mondes, des imaginaires dans lesquels les gens peuvent continuer de créer des imaginaires, il y a quelque chose d'un petit frisson. Donc juste là-dessus, est-ce que vous ne sentez pas un peu démiurge quelquefois, Cédric?
J'ai fait il y a longtemps un jeu d'enfoiré, ouais, c'est assez sympa d'imaginer que les gens vont se mettre sur la gueule, oui. Pour côté démiurge.
Est-ce que...
Oh non, je sais pas. Moi, il y a vraiment, je veux revenir, cette notion de partage qu'on a voulu avec, avec Denis, partager des choses avec des gens. Et, et là où on en prend vraiment conscience de cette notion de partage, sans se dire qu'on a créé quelque chose de formidable, machin, et qui va, voilà, de pouvoir voir des gens qui aiment jouer à notre jeu, c'est vrai que ça fait plaisir, quoi.
Eh ben, merci beaucoup. Donc, on rappelle Chaco ou Chacos. Chacos, c'est pas mal. Hein. Chacos, donc plein de jeux, 9, 10, là, qui sont à retrouver sur votre site internet. Ou Cédric, comment on fait pour trouver tes jeux?
On peut aller sur dondufeu.wixipk.com/prométhée. Je ne fais pas de vente en ligne. Si vous avez un jeu de moi, vous avez beaucoup de chance.
À vous rencontrer aussi dans, voilà, dans des moments d'échange, des salons qui peuvent avoir lieu. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus.
Merci.
Restez avec nous à l'écoute de Fréquence 7. Évidemment, je n'ai pas le programme de la journée, mais peut-être Sylvain. Sylvain.
Oui, écoute, comme tous les jours, à 15h, on va retrouver le Telex. À 19h, il y aura Éclectrique. Et à 20h, vous pourrez retrouver la playlist de mon pote.
Super, la playlist de mon pote concoctée par Valou. Mais Stéphane nous rejoint ici pour nous parler juste de ce qui va se passer pour Noël.
Pour Noël, effectivement. Alors, nous allons faire quelque chose autour de André Griffon. Qui est André Griffon ? André Griffon, il aurait eu 100 ans cette année et il a longtemps présidé aux destinées de Fréquence 7. Le studio dans lequel on est s'appelle le studio André Griffon. C'était un conteur, c'était un journaliste qui travaillait, qui était correspondant au Monde et au Dauphiné. C'était également un récolteur d'histoires et il enregistrait en fait des contes sur une petite cassette que j'ai retrouvée, numérisée. Et ça sera donc l'occasion de réentendre sa voix chaude avec d'autres conteurs. Il y aura notamment un petit conte assez surprenant que j'ai retrouvé de Pierre Vassilieu et puis des contes de Fernandel. Cette émission spéciale, elle sera diffusée le dimanche 24 décembre à 20h et il y aura une rediffusion le lendemain, le jour de Noël, à midi.
Super, merci Stéphane, exhumeur de bons plans. Oh, la voix d'André Griffon qui va nous parler de très loin. Merci beaucoup. Et c'était la dernière onde curieuse de l'année. On se retrouve pour une prochaine onde curieuse le 8 janvier. Et demain, par contre, il y aura bien le Cinémascope. Donc à demain. Merci beaucoup, Sylvain, pour la réalisation de cette émission. Ciao.